Radio Okapi. Oh, Okapi.
C'est toujours la paralysie des activités économiques à la cité frontalière de Kasindi. La population est descendue dans la rue pour protester contre l'immobilisation des camions avec l'immatriculation congolaise à la frontière du côté ougandais. Les raisons officielles ne sont pas connues du public. Que l'année 2022 soit une année de paix et de développement sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est le souhait de la population de cette province. Elle salue à cet effet toutes les initiatives du gouvernement visant à rétablir la paix dans leur province. Nous aurons comme invité dans ce journal Maître Patience Kavira Sinamouli et les points focaux du collectif des associations féminines pour le développement en ville de Beni. Avec elle, nous parlerons du déroulement des activités des associations féminines dans cette ville durant l'année 2021. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition vespérale. Dans le territoire de Beni, c'est toujours la paralysie des activités économiques à la cité frontalière de Kasindi. La population est descendue dans la rue pour protester contre l'immobilisation des camions avec immatriculation congolaise à la frontière du côté ougandais. Les raisons officielles ne sont pas connues du public. Pendant ces temps, un pourparlers serait en cours entre les autorités provinciales de ces deux pays voisins afin de décanter cette situation qui tend à prendre de l'ampleur. Marc Ofimbo pour les précisions.
Ce jeudi, la cité frontalière de Kasindi a connu son deuxième jour de paralysie des activités. Et pour cause, la population a répondu à l'appel de la société civile Force Vive qui conteste la décision des autorités ougandaises de Kirungu Kasese d'immobiliser plus de 100 camions avec immatriculation congolaise transportant des marchandises diverses, dont la majorité constituée de poissons salés pour des raisons non élucidées. En revanche, ce mercredi, la population de Kasindi, elle aussi, est descendue dans les rues et immobilisée 150 camions avec immatriculation ougandaise du côté du territoire congolais en dégonflant les pneus de quelques-uns. Comme conséquence, une paralysie des activités économiques s'est fait observer deux jours maintenant à cette cité frontalière. Mais la société civile ne jure qu'endurcir sa grève jusqu'à ce que les camions congolais bloqués à Kirungu Kasese du côté ougandais soient libérés. Pour l'instant, certaines sources sur place à Kasindi indiquent que déjà des pourparlers sont à court entre l'autorité provinciale du Nord Kivu ainsi que son homologue du district de Kasese avant de déclencher cette situation. Ces sources indiquent également que les autorités ougandaises de Kasese voulaient délocaliser les grands marchés transfrontaliers des poissons situés à Kasindi pour Kasese, ce que conteste la société civile ainsi que les opérateurs économiques de la place. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
30 novembre, 30 décembre 2021, cela fait exactement un mois depuis que le lancement des opérations conjointes FRDC-UPDF contre les ADF actifs dans la région de Beni, au Nord Kivu, est en province voisine de l'Ituri. Un mois après, la société civile du Nord Kivu salue la détermination et la pression de cette force conjointe contre l'ennemi. Dans un point de presse tenu à Butembo ce jeudi par Edgar Matesso, vice-président des Forces Vives du Nord Kivu, indique cependant que l'armée n'a pas bouché toutes les voies possibles pouvant faciliter à l'ennemi de s'échapper en direction de Goma, notamment prendre les transports en commun via Butembo ou traverser la vallée de la rivière Semuliki ou encore se disperser dans la forêt équatoriale en Ituri pour se réorganiser dans le but d'encercler l'armée ougandaise. On écoute Edgar Matesso au micro de Florida Kambo.
Comme recommandation, nous demandons au gouvernement congolais, au ministère de la Défense, au chef de l'État, de pouvoir retirer de la zone tous les militaires congolais qui ont été recrutés à partir des anciennes rébellions à travers les mixages, les brassages ou l'amnistie, pur et simple. On aurait souhaité que ces militaires soient retirés de la zone opérationnelle pour maintenir notre perception saine sur les forces armées de la République. Cela pourra renforcer la confiance des civils envers son armée. Deuxième recommandation, que les accords ou les partenariats entre l'UPDF et les FARDC soient plus ou moins clarifiés. La dernière recommandation, nous l'adressons à la population de maintenir sa bonne collaboration avec les FARDC, la police.
Nous le disions en titre, en Ituri, la population souhaite que l'année 2022 soit une année de paix et de développement sur toute l'étendue de cette province. De nombreux habitants disent être lassés de la guerre et de ses conséquences qui perdurent depuis 4 ans. Ils saluent toutes les initiatives du gouvernement, notamment l'état de siège, la mutualisation des forces et le programme de désarmement et de démobilisation qui offrent une lueur d'espoir pour l'année prochaine. Isaac Remoyope pour les détails.
L'année 2021 qui s'achève a été caractérisée par l'intensification des atrocités des groupes armés dont ADF, CODECO, FPIC, dans presque toutes les entités territoriales, mais aussi la pandémie de COVID-19, affirment certains habitants. Ils déplorent les conséquences de ces fléaux, notamment les meurtres des milliers de gens, l'incendie des maisons, la paralysie des activités économiques et scolaires et les déplacements des populations estimés à environ 2 millions de déplacés en Ituri. Ils souhaitent que l'année 2022 soit meilleure grâce à toutes les initiatives du président de la République et du gouvernement de la RDC.
Nous, en tant que population de l'Ituri, nous voulons voir un grand changement de notre province, sur tous les plans sécuritaire, social, parce qu'il y a beaucoup de problèmes passés dans cette année 2021, surtout les cas d'insécurité, que ce soit une année de paix.
Selon la coordination de la société civile de l'Ituri, la population qui est fatiguée des cycles de violence soutient toutes les actions du gouvernement pour que la paix soit effective dans cette province. Dieudonné Lossa.
Nous croyons que l'année 2022 doit être vraiment une nouvelle année avec de nouvelles choses. Nous sommes fatigués de guerre, de voir nos frères et sœurs, nos parents dans les sites de déplacés. Nous sommes fatigués de rester dans les conditions où on ne peut pas circuler librement chez soi. Nous voulons aller faire nos champs.
Signalons que c'est depuis 2017 que l'insécurité persiste en Ituri et a plongé la population dans la misère. Bounia Isakare Moyope, Radio Okapi.
La quantité de chinchards que le gouvernement a importé de la Namibie, qui sera vendue au Congo central, est jusqu'à présent intacte dans la chambre froide Lédia Amatadi. C'est ce que confirme Corneille Mukini, chef des divisions provinciales de l'économie du Congo central, à la suite des questionnements de la population sur ce poisson et d'une rumeur faisant état de l'achat de ces chinchards par la Socimex pour les revendre à la population au prix élevé. Quant à la date du début de la vente et du prix duquel sera vendu ces chinchards, Corneille Mukini, qui a fait la ronde des sociétés d'importation et des ventes de produits surgelés ce mercredi, dit attendre les mots d'ordre du ministre national de l'économie. Corneille Mukini, chef des divisions provinciales de l'économie au Congo central, les dit au micro de Nana Plus Riche Mambou.
Les poissons du gouvernement, une quantité se trouve dans des chambres froides de l'Edia. En ce moment ici, c'est hermétiquement fermé, il n'y a aucun mouvement ni de vente ni de livraison. Et puis, c'est Socimex, dont la rumeur disait que Socimex aurait acheté les chinchards du gouvernement et il est en train de vendre. Alors que c'est faux. Ils ont donné leurs documents d'importation et la quantité. D'ailleurs, nous avons ces documents. La rumeur est fausse. Moi, j'attends aussi les ordres, les instructions de la hiérarchie. Oui, le ministre national de l'économie. Comme on a montré à la télévision, nous attendons que l'instance supérieure, c'est-à-dire le ministère de l'économie ou le secrétariat général, puisse dire un mot pour ce qui concerne la province du Congo central.
Pendant ce temps au Kwilu voisin, dans la ville de Bandundu, plusieurs personnes ayant des moyens limités préfèrent acheter carrément des habits de friperie, dit tombola, à la place des tenues de ville pour la fête de la Saint-Sylvestre. Par exemple, certains parents rencontrés au marché central indiquent que les tenues de ville ou des magasins coûtent trop cher que la friperie. D'autres personnes, surtout les femmes, ont choisi de faire recours à la coupe et couture pour fêter. Les détails dans ce reportage de Irène Mboma.
C'est l'ambiance ce jeudi 30 décembre au marché central de Bandundu dans la commune de Bissassi. Ici, nous avons trouvé un afflux inhabituel de gens dans le couloir des friperies. Plusieurs parents sont en train de trier les habits pour leurs enfants à l'occasion de la fête de Nouvel An. Interrogés, certains d'entre eux réagissent comme suit. J'achète pour mes enfants les habits des friperies pour la bonne fête parce que les tenues de ville coûtent trop cher.
Les moyens que nous avons ne permettent pas d'entrer dans des magasins. pour chercher des habits qui coûtent cher. Autant mieux aller dans les tombola. L'essentiel pour nous est que les enfants se réjouissent quand même.
Jacqueline Boma est couturière. Elle laisse entendre que malgré la conjoncture, elle a quand même reçu beaucoup de clientes.
Moi quand même, j'ai reçu beaucoup d'habits pour coudre. Surtout les jeunes filles, elles veulent paraître jolies pendant ces fêtes. C'est pourquoi vous voyez, je suis même débordée.
De l'autre côté, Madame Gertrude, une vendeuse, indique ce qui suit.
Une personne comme client ici, je vends des mèches de fantaisie pour les femmes, mais même pour les enfants, j'ai des jouets, mais nous ne vendons même pas. Il n'y a pas de fête cette année.
En attendant, d'autres personnes par contre affirment avoir déjà tout préparé pour bien festoyer. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ça s'est passé mardi 28 décembre dernier à Kinshasa, mais sur les réseaux sociaux, cela continue à susciter plusieurs réactions. Il s'agit du déjeuner de l'unité. Tel est le nom donné à ce repas assez particulier que les anciens élèves du collège Boboto ont offert à leurs anciens enseignants du primaire et du secondaire, ainsi qu'au personnel en collaboration avec la coopérative agricole Bilanga ya Betu. Selon les organisateurs, l'objectif est de montrer leur solidarité à leurs anciens formateurs, surtout en cette période de festivités de fin d'année. Cette réception était tout à fait particulière, puisqu'une grande surprise a été réservée à ses encadreurs. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce reportage dans les Irungu Mushinji.
Eh bien, la surprise, c'est que ces anciens élèves du collège Boboto ont troqué leur toge d'avocat, de magistrat, leur blouse blanche de médecin et leur veste de chef d'entreprise contre des tabliers et des chapeaux de cordon bleu. C'est eux qui ont servi le repas à plus de 200 personnes composées de leurs anciens enseignants et du personnel. Docteur Serge Mbaye, l'un des organisateurs et coordonnateur de la coopérative agricole Bilanga ya Betu, explique.
Ça a été une façon pour nous de leur exprimer notre reconnaissance et notre solidarité.
Très ému, le représentant des enseignants a exprimé la reconnaissance de ces derniers à ses anciens élèves, Jean-Denis Nzeza.
Ces anciens sont venus en servant. C'est eux qui ont servi chacun des enseignants, chacun des ouvriers, chaque personnel du collège Boto qui était autour des 200 personnes. Et ces anciens nous ont servi comme vraiment des servants. Et parmi ces anciens, toutes catégories confondues, il y avait des chefs d'entreprise, des PDG des grandes entreprises multinationales, des médecins, des professeurs d'université, des inspecteurs de finances.
Signalons que selon les organisateurs, il ne s'agit là que de la première édition du déjeuner de l'unité, l'idée étant de pérenniser cette action.
Nord Kivu, territoire de Nirangongo, plusieurs familles sinistrées de l'éruption volcanique du 22 mai 2021 vivent encore dans de mauvaises conditions dans les sites de transit de Kayembe. Ce sont des familles qui attendent d'être logées par le gouvernement, tout comme leurs frères, environ 2000 ménages déjà installés dans 4 sites officiels situés toujours dans le Nirangongo. Le responsable en charge de la réponse humanitaire reconnaît l'insuffisance de l'aide humanitaire en général, mais l'objectif selon lui, c'est de donner un logement définitif à tous les sinistrés. Plus de détails dans ce reportage de Sifa Maguru.
Nous souffrons beaucoup, surtout nous les femmes et les enfants. Ça fait 2 mois que nous n'avons plus d'eau potable. Nous les femmes, nous attrapons déjà des infections et nous n'avons pas de médicaments. D'autres meurent de faim. Nous achetons de l'eau, un bidon pour des enfants congolais. Comme l'explique cette mère de famille, les conditions sociales sont difficiles dans les sites de Kayembe en territoire de Nirangongo. On observe une population mécontente et désemparée. En plus, ce site n'est plus approvisionné en eau potable alors qu'il héberge des centaines de ménages, ce qui laisse craindre des risques de maladies. Bonheur Maillet, le secrétaire du site, explique.
Actuellement, nous avons 980 familles. Il n'y a pas de vivres. Il y a les femmes qui cherchent des boulons, ils aillent cultiver. Les autres aillent commander dans de différentes églises. Il y a les enfants qui sont en train de connaître des accidents parce qu'ils aillent chercher des boulons ailleurs.
D'après la coordination technique de la réponse humanitaire, sur plus de 4000 ménages enregistrés officiellement après les opérations d'identification, le gouvernement a réussi à reloger plus de la moitié dans les sites provisoires. En outre, depuis un mois, 1000 autres ménages reçoivent des fonds de loyer pour se faire loger dans les villages en attendant une solution définitive avec l'appui du HCR et de la Caritas. Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, 20 femmes souffrant des fistules obstétricales ont été opérées et réparées la semaine dernière à l'hôpital général de référence de Kindu avec l'appui de UNFPA. Dans une interview avec Radio Okapi ce mercredi 29 décembre, le médecin directeur de cet hôpital s'est dit soulagé d'avoir atteint leur objectif fixé pour l'année 2021, celui d'opérer 50 femmes. Docteur Djunga Tukunda Michel s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Elles sont opérées au nombre de 20, tout simplement pour compléter les gaps qui manquaient par rapport à l'objectif fixé au courant de l'année 2021. Donc, l'hôpital était censé opérer 50 cas, et on avait déjà opéré 30, il nous reste 20. Donc, nous venons de terminer, et nous venons d'atteindre l'objectif fixé. Cela en routine avec l'appui de l'INFPA. L'équipe est locale, donc le médecin de l'hôpital général qui ont été formés sous l'appui de l'INFPA à Bukavu, chez Dr Mukwege. Quand même l'équipe a répondu présente au rendez-vous, ils ont terminé tous les cas prévus. 50 prévus, 50 opérés, c'est une satisfaction totale. Nous remercions d'abord les partenaires INFPA qui nous a accompagnés, et les équipes qui ont opéré, et les malades qui nous ont fait aussi confiance. Par rapport à l'année 2022, nous projetons opérer 100. Et cela dépendra des moyens qui nous seront disponibles. Surtout, l'accompagnement en médicaments comme le fait l'INFPA et la petite motivation pour l'équipe. Tout simplement pour augmenter la marge des dames qui doivent bénéficier des soins.
Actualité internationale.
En France, le gouvernement souhaite pouvoir sanctionner d'une amende administrative allant jusqu'à 1000 euros par salarié dans la limite de 50 000 euros, les entreprises ne jouant pas le jeu du télétravail pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, a annoncé jeudi la ministre du Travail Elisabeth Borne. Un amendement au projet de loi sur la passe vaccinale va être déposé d'ici la fin de la semaine, a précisé son entourage. Aux USA, le président américain Joe Biden s'entretient ce jeudi 30 décembre avec son homologue russe, alors que les États-Unis continuent de préparer avec leurs alliés européens une réponse commune au déploiement par la Russie des soldats près de la frontière avec l'Ukraine.
L'invité.
Comment les activités des associations féminines se sont déroulées en ville de Beni durant cette année qui tend à sa fin? Quels ont été les défis? Comment ces femmes comptent-elles relancer leurs activités? Ces questions ont été posées au point focal du collectif des associations féminines pour le développement CAFED en ville de Beni. Maître Patience Kavira Sinamouli répond aux questions de Marc Marofimbo.
Madame Patience Sinamouli, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Au sein du collectif des associations féminines pour le développement, dont vous êtes point focal, comment les activités se sont déroulées en l'année 2021?
En fait, l'année 2021 n'a pas été facile, compte tenu des différents contextes que nous traversons. Café de la ville de Beni, nous avons fait ce que nous devrions faire, bien que les difficultés ont été multiples, mais nous avons tenté de faire ce que nous pourrions. Nous avons sensibilisé les différentes couches de la société, plus particulièrement les femmes et les filles, par rapport à la restauration de la paix, à l'autonomisation, à l'autoprise à charge, et aussi à leur demander de s'impliquer pour la participation et la consolidation de la paix. Nous avons atteint les couches que nous devrions atteindre, mais malheureusement, nous devrions aller plus loin. Et nous avons été limités par certains défis, notamment la sécurité, et aussi les moyens nous ont aussi limités. Donc bref, à Ville de Beni, les femmes sont braves. Ça, vraiment, je dois reconnaître. Parce que c'est du café, les femmes leaders qui œuvrent dans le café sont vraiment braves. Parce qu'il faut tirer même sans rien, même sans frais de transport, mais elles s'y donnent pour que les messages passent. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous avons travaillé au cours de l'année passée.
Loin des contextes sécuritaires ainsi que financiers, quels ont été aussi d'autres défis auxquels vous, CAFED, vous avez fait face?
En fait, le défi majeur, c'est que la plupart des femmes vivent dans le désespoir maintenant. Une fois voulu parler de quelque chose, elles ont vraiment la peur du lendemain parce qu'elles ne peuvent plus accéder librement à leurs activités Et quand vous leur parlez qu'il y a encore espoir, elles se demandent d'où viendra cet espoir-là, en fait. Donc elles sont démoralisées, elles sont traumatisées, parce que la femme de Béni vit sous une émotion, malheureusement trop négative, parce qu'elle ne sait plus sur quelle ça se vouait. C'est un grand défi, parce qu'il y en a celles-là qui ne voulaient même pas participer aux différentes activités, parce qu'ils se disaient même si on participait à ces activités-là, qu'est-ce que ça va nous donner, ça aura quel rendement. Mais aussi, il y en a de celles-là avec qui nous avons sensibilisé, celles-là qui nous avons sensibilisé, mais nous avons été limités par les moyens, parce qu'elles manifestaient une bonne volonté d'apprendre quelque chose, mais elles ne savent pas par où commencer. Normalement, c'est nous qui devrions leur doter de quelques moyens, mais nous aussi, nous n'avions que les bagages intellectuels à faire. Donc, c'est aussi une grande difficulté qui nous rencontre.
Oui, si on peut parler des types de partenariats que vous avez développés, lesquels ont porté de fruits?
Par rapport au partenariat, je dirais que 2021, contrairement aux autres années, 2021 vraiment était tellement difficile parce que nous n'avons eu aucun partenariat qui nous a aidé à accompagner les femmes pour répondre au minimum de leurs besoins. Donc jusque-là, nous avons travaillé qu'avec les moyens de bord. Ce ne sont que les femmes leaders qui contribuaient, soit l'organisation au niveau provincial qui peut faire un petit geste pour encourager les femmes qui sont sur le terrain. Mais au niveau des partenaires, nous sommes en train de voir parce qu'il y en a de celles-là qui commencent à se manifester. Mais nous attendons. Si vraiment elles se manifestent, on pourra bien lancer les activités dans l'année qui commence parce que nous avons beaucoup de cibles. Il y en a les femmes policières qui réclament aussi pourquoi est-ce que nous n'atteignons pas leurs épouses, aussi les femmes policières, les femmes des militaires. Donc le travail est encore trop lourd et nous savons que l'année 2022 pourra peut-être nous redonner encore espoir, surtout qu'avec les opérations qui sont en train de se passer sur le terrain, l'effort que le gouvernement fournit pour que la paix revienne, nous espérons qu'en 2022, peut-être que tout serait déjà en ordre pour que les activités soient bien lancées sur le terrain.
Et dans quelques matins seulement, nous allons tourner la page 2021. Vous pensez comment vous allez relancer au niveau du café des activités pour 2022?
2021 appartiendra au passé, mais nous aurons toujours des références par rapport à 2021 parce que nous avions beaucoup planifié à 2021 mais que nous n'avons pas si réalisé suite aux différents contextes que je venais tantôt de vous énumérer. Donc nous allons voir à 2022. Commencer par les activités que nous n'avons pas été en mesure de réaliser au cours de l'année 2021. Pour que nous puissions relancer les activités en 2022. Donc en 2022, nous avons beaucoup planifié, même jusqu'au territoire, mais nous demandons la grâce divine pour que Dieu nous donne force et santé, et surtout la sécurité, pour que nous puissions atteindre les cibles que nous avons su proposer au niveau du territoire.
Madame Patience Sinamouli, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de la grande édition du journal du soir, il a été coordonné et supervisé par Alain Irungu-Mushinj. La mise en onde était assurée par Jean-Claude Nsial Lamwana Makingo. Rendez-vous tout à l'heure à 19h heure de Kinshasa pour un autre point d'actualité.